Il est 8h sur France Culture. Tout de suite, on retourne à Paris pour les informations présentées par Camille Magnard.
Bonjour. Des combats politiques qui restent à mener sous l'étendard arc-en-ciel alors que la marche des fiertés se déroule cet après-midi à Paris. Des associations comme ACT UP dénoncent la dépolitisation de cet événement. Pedro Sanchez, lui, à la rescousse des socialistes français. Le nouveau Premier ministre espagnol a marqué l'Europe il y a 2 semaines en acceptant d'accueillir les migrants de l'Aquarius. Il était hier à Paris pour tenter de faire profiter ses camarades français de sa popularité. Le Maroc ne veut pas que l'Europe lui dise comment gérer les migrants africains en route pour Gibraltar, Casablanca, qui redit son opposition farouche à l'installation sur son territoire de centre européen de tri des exilés. Dans ce journal, nous reviendrons également sur cette attaque terroriste qui a visé hier le QG de la force opérationnelle du G5 Sahel dans le centre du Mali qui a fait au moins 3 morts. Nous verrons pourquoi les salariés des chantiers navals de Saint-Nazaire ont franchement hésité avant de se porter actionnaires de leur société qui repasse sous pavillon français avant d'être racheté par l'italien Fincantieri. Et puis un peuple frappé par la crise économique qui se raccroche au football pour tenter de panser ses plaies. Je ne parle pas bien sûr de la France, mais de l'Argentine, adversaire des footballeurs tricolores cet après-midi en 8e de finale du Mondial en Russie. La fête et la fierté LGBT ne doivent pas faire oublier les combats politiques. Pour cette marche des fiertés qui défilera cet après-midi entre la Concorde et la République à Paris, les décibels des chars techno auront du mal à couvrir certaines voix critiques. Les voix de plusieurs associations qui dénoncent une récupération, un affadissement politique de la manifestation derrière le thème en particulier retenu cette année, la lutte contre l'homophobie dans le sport. Antoine Marette.
Et c'est ACT UP Paris qui se montre la plus critique contre ce mot d'ordre. L'association de lutte contre le sida dénonce une dépolitisation de la marche de fierté. Drass est vice-présidente d'ACT UP Paris.
Le mot d'ordre cette année d'Inter-LGBT, c'est les discriminations au tapis dans le sport comme dans la vie. Nous, on ne soutient pas ce mot d'ordre-là. Ça ne nous paraît pas être central aujourd'hui quand on voit la politique qui est menée par rapport aux séropos, aux exilés, les putes qui sont victimes de la loi de pénalisation des clients qui a fait grave augmenter les contaminations. Et puis le gouvernement expulse les séropos et les tue en fait. Donc pour nous, c'était pas la priorité de parler du sport.
ACT UP Paris n'est pas d'accord avec l'Inter-LGBT qui organise la marche des fiertés et l'a fait savoir. Résultat, l'association se retrouve à l'avant-dernière place du cortège. Mais pour la porte-parole de l'Inter-LGBT, Clémence Zamora-Cruz, la lutte contre le sida n'en reste pas moins un combat majeur de cette manifestation.
La lutte contre le VIH, elle est portée par presque toutes les organisations. Et puis, il y a des actions bien concrètes. Il y a 3 minutes de silence, comme tous les sons, lors de la marche. Donc, à 16h30, tout le cortège s'arrête pour faire 3 minutes de silence en mémoire des morts du VIH.
Mais plusieurs collectifs protestent contre le mot d'ordre de la marche de fierté qu'ils jugent surréaliste. Et ils appellent sur les réseaux sociaux à former cet après-midi un cortège de tête en signe de désaccord.
Un dossier signé Antoine Marette. La marche des fiertés parisiennes s'élance donc à 14h depuis la place de la Concorde. Que reste-t-il à présent de la fierté socialiste en France? Le PS, moribond depuis plus d'un an, se cherche toujours une planche de salut. Et hier soir, il semblait l'avoir trouvée, pour un temps au moins, en la personne de Pedro Sanchez. Le Premier ministre espagnol est dans la lumière européenne depuis 2 semaines pour avoir accepté d'accueillir les migrants de l'Aquarius dans le port de Valence. Il était donc hier de passage au Cirque d'hiver à Paris, aux côtés d'Olivier Faure, Anne Hidalgo ou encore Pierre Moscovici, des socialistes français en quête d'un sauveur, Mathieu Desmoulins.
Hier soir, il était la star au point de finir au centre de la photo de famille à la fin du meeting. Lui, Pedro Sanchez, le nouveau héros de l'Europe. Après sa décision, jugée généreuse ici d'accueillir l'Aquarius dans le port de Valence, tous les socialistes veulent le remercier, à commencer par son amie de longue date, la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Permettez-moi de dire merci à Pedro. Il a sauvé l'honneur de l'Europe. S'il n'avait pas posé cet acte fort, je crois que l'idée même de l'Europe pouvait être terminée.
Sauveur de l'Europe, oui, mais le chef du gouvernement espagnol pourrait bien aussi être le sauveur du parti. Pour le premier secrétaire, Olivier Faure, il redore en effet le blason des socialistes.
Peut-être qu'il a aussi redonné un peu d'énergie et de visibilité aux socialistes européens. Il a une idée de la gauche qui correspond parfaitement à ce à quoi nous croyons depuis toujours. Pedro Sanchez est une formidable occasion d'espérer et nous voulons espérer avec lui.
Attention toutefois à ne pas trop espérer, souligne en privé un cadre du PS. Pedro Sanchez est arrivé au pouvoir grâce à une manœuvre parlementaire. Les résultats pourraient donc être moins élevés qu'escomptés.
Mathieu Desmoulins, on parlait à l'instant de l'Aquarius. Eh bien, évoquons à présent les suites de l'accord conclu à Bruxelles hier matin par les dirigeants européens pour gérer les arrivées de migrants justement en Méditerranée. Les 28 disaient notamment leur volonté d'installer dans des pays volontaires hors Union européenne des centres de désembarquement des migrants secourus en mer, centres également de premier traitement des demandeurs d'asile. Au-delà de toutes les questions de droit international qui restent posées, il va surtout falloir trouver à présent des pays candidats pour héberger ces centres. Ce ne sera pas le Maroc, pourtant principal pays de transit en Afrique du Nord, après la Libye, Casablanca, où l'on retrouve Sarah Doublier, pour nous expliquer pourquoi le pouvoir chérifien continue et entend continuer de gérer la question migratoire à sa manière.
Des solutions faciles et contre-productives. Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine, a dénoncé les projets de hotspot hors Europe envisagés par l'UE avant même l'accord intervenu à Bruxelles. Soucieux de ne pas se mettre à dos ses partenaires africains dans le cadre d'une reconquête diplomatique du continent, le Maroc entend aujourd'hui donner un visage plus humain à sa politique migratoire, cantonnée pendant de longues années à contenir les franchissements illégaux de ses frontières nord. Les autorités ont d'ailleurs démantelé il y a 5 ans les camps de fortune de migrants installés dans les forêts avoisinant les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Dans le même temps, elles ont lancé plusieurs campagnes de régularisation massive où plus de 30 000 cartes de séjour ont été délivrées et des mesures d'intégration socio-professionnelle adoptées. Les associations dénoncent pourtant régulièrement les éloignements forcés de candidats au départ vers l'Europe. Car malgré ces incitations à l'installation, la majorité des migrants ne renonce pas à tenter la dangereuse traversée du détroit de Gibraltar par la mer, une route désormais privilégiée par les passeurs au détriment des enclaves terrestres devenues quasi infranchissables.
Sarah Doublier à Casablanca, c'est un avertissement particulièrement clair qu'ont adressé hier les groupes terroristes du Sahel aux pays de la région censés les combattre au sein du G5 Sahel. Le quartier général de cette force d'intervention a été attaqué hier à Ségaré dans le centre du Mali. On dénombre au moins 3 morts, le tout quelques jours avant une rencontre prévue entre Emmanuel Macron et les dirigeants des pays qui participent à ce G5 Sahel. Précision depuis Bamako de Christelle Pire.
L'attaque, qualifiée de terroriste par les autorités, a eu lieu aux environs de 14 heures. La moitié du personnel du camp était en pause et donc absent. Il y a tout d'abord eu des tirs de roquettes sur le camp, puis un véhicule piégé a réussi à passer les barrages de sécurité et à s'approcher du portail où il a explosé. La détonation a été très violente, on l'a entendu à plusieurs kilomètres à la ronde. Et cette explosion a permis aux assaillants de pénétrer dans la cour principale. Des échanges de tirs nourris avec les militaires ont ensuite suivi. Les dégâts sont importants, un bâtiment a été totalement détruit, plusieurs autres sont très endommagés. Cet attentat complexe montre encore une fois la capacité d'organisation des groupes terroristes dans le centre et le nord du Mali. Ils ont réussi à viser, en pleine ville, en pleine journée, un lieu symbolique et sécurisé, le quartier général de la force conjointe du G5 Sahel, une force qui est censée lutter contre les groupes terroristes au Sahel. Cette force, déjà attaquée, alors même qu'elle tarde encore à être pleinement opérationnelle sur le terrain. Depuis octobre dernier, elle n'a mené que 3 opérations majeures aux frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et cela à cause notamment de la lenteur pour débloquer les fonds et de la difficile coordination entre les différentes armées.
La chaîne de télévision américaine NBC cite des sources du renseignement américain. Elle vient ternir les succès de la diplomatie Trump en Corée du Nord. Selon NBC donc et ses sources du renseignement, Pyongyang continuerait à produire de l'uranium enrichi tout en discutant dénucléarisation. Elle aurait même, le régime nord-coréen aurait même augmenté sa production donc de combustible nucléaire tout en continuant les discussions. Le pavillon français qui bat à nouveau depuis ce matin sur les chantiers navals STX à Saint-Nazaire avant leur passage à 51% sous la propriété italienne de l'entreprise Fincantieri. La société navale redevient provisoirement donc 100% française sous le nom des chantiers de l'Atlantique. Un autre changement pour certains salariés de Saint-Nazaire. Ils peuvent devenir, depuis aujourd'hui, ils deviennent actionnaires de leur employeur. Petits actionnaires avec de petits pouvoirs et de petits bénéfices, annonçait David Ravier.
56% des 5900 salariés des nouveaux chantiers de l'Atlantique ont décidé de devenir actionnaires de leur entreprise à hauteur de 2,4%. Les employés avaient 3 possibilités pour entrer au capital de l'armateur. Soit ils avaient des fonds propres à investir directement, soit ils pouvaient sacrifier au choix des jours de congé ou une partie de leur prime d'intéressement. De son côté, la direction a fait des efforts pour inciter les salariés à devenir actionnaires de leur lieu de travail. par exemple en proposant une réduction pour l'achat des actions, mais également en donnant un coup de main financier aux employés pour gonfler leur cagnotte. Résultat, avec un versement moyen de 1 500 € par salarié et la compensation versée par l'entreprise, les employés commencent cette nouvelle aventure avec environ 2 500 € d'actions en poche. Seul bémol, les actions seront bloquées pendant les 5 premières années et elles ne permettront pas non plus aux salariés d'avoir un droit de regard sur le conseil d'administration ou dans les assemblées générales. Enfin, une dernière question qui reste en suspens pour l'instant, c'est celle de la rémunération. Normalement, les actions devraient rapporter de l'argent à ceux qui en possèdent, mais selon la CGT, l'entreprise n'a pas versé de dividendes à ses actionnaires depuis 25 ans, ce qui pourrait expliquer pourquoi plus de 40% des salariés n'ont pas jugé rentable de rentrer au capital des chantiers de l'Atlantique.
La fin de la première semaine d'audience hier aux assises du Val-de-Marne, Créteil, où l'on juge 5 hommes impliqués dans l'agression d'un couple. C'était dans un appartement en 2014 au cours d'un cambriolage où la femme avait été violée. Le caractère antisémite présumé de cette agression est au cœur du procès où hier on a pu entendre les témoignages des deux victimes, Jonathan et son ex-compagne Laurine. Cette dernière a été auditionnée à huis clos. Maître Patrick Klugman est l'un de ses avocats.
Laurine a voulu déposer, allant au bout de ses propres forces, de se rassembler, de revivre une fois encore ce calvaire. Et elle a d'ailleurs expliqué quelque chose d'incroyable. Elle dit « J'ai arrêté de voir des psys parce que j'en peux plus de parler de ça. Et en même temps, je suis obligée d'en parler, sinon je ne m'en libérerai jamais. » Et je crois que c'est cet acte libératoire qu'elle a voulu livrer, mais vraiment, on sentait une femme au bout de ses forces. Et à un moment donné, elle a quand même tenu à parler aux accusés. Je veux comprendre pourquoi ils m'ont fait ça, et je veux qu'ils réalisent ce qu'ils ont fait. Et ce n'était pas une demande de vengeance, ce n'était même pas une demande de punition. C'était juste un besoin humain pour survivre, de comprendre comment sa vie a implosé ce jour-là. Et on a cette audience de la cour d'assises. Vous avez des accusés dans le déni le plus total, sans aucun égard, sans aucune compassion, sans aucune responsabilité, et des victimes dont la vie est pour chacun brisée. Et le sentiment incroyable que cette scène qui a duré 1h30 en décembre 2014 ne s'est jamais terminée, qu'elle a disloqué la vie de chacune de ces personnes, en couple et individuellement.
Et ce procès aux assises du Val-de-Marne se poursuit donc la semaine prochaine. Justice également avec la condamnation, cette fois à 7 ans de prison, dont la moitié en peine de sûreté pour Claire Casser, cette Française qui était poursuivie au tribunal de grande instance de Paris pour être partie en Syrie en mars 2015. Cette mère de 6 enfants est donc condamnée à 7 années de prison. On parle football, mais pas seulement à présent, avec ce rendez-vous pour la Coupe du Monde qui se déroule en Russie. C'est le rendez-vous des huitièmes de finale avec la France qui affronte cet après-midi l'Argentine. Une rencontre très attendue en Argentine, justement. Ce pays est exposé à une crise économique et sociale ces derniers mois. Il semble donc que tous les Argentins attendent beaucoup de la rencontre de cet après-midi, d'une possible victoire de leur pays pour retrouver un petit peu d'enthousiasme collectif. Reportage à Buenos Aires de Caroline Vic.
30% d'inflation, le retour du Fonds monétaire international, des taux d'intérêt qui s'envolent, des crédits hypothécaires devenus impossibles à rembourser, des licenciements massifs, près de 30% de dévaluation. Le gouvernement continue de promettre un futur meilleur, mais les Argentins ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois. Maria Lourdes est retraitée et même si elle ne suit pas de très près la Coupe du Monde, elle désire de tout cœur une victoire argentine aujourd'hui.
Nous sommes en train de vivre un moment si difficile qu'une victoire nous ferait du bien. Cela procurerait du bonheur à la société qui est si passionnée de football. S'il gagne, ce sera utile à toute la société.
Juan, lui, est fanatique de football et d'économie. Pour lui, les deux sont profondément liés.
On lutte chaque jour pour boucler les fins de mois. On a du mal à s'en sortir, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Ne pas vivre de victoire dans notre pays, c'est-à-dire des choses qui fonctionnent dans l'économie, le travail et la santé, fait qu'on projette tout dans le football. Une victoire serait la meilleure chose qui puisse nous arriver parce qu'en plus, ça nous permet d'éviter de penser à d'autres sujets. Par exemple, le dollar a atteint 30 pesos, mais les gens n'en parlent pas. Mais la formation de l'équipe pour le match, tout le monde la connaît.
Une victoire serait donc une courte joie, mais une joie quand même. Et alors que Macri semble perdre la partie, le seul capable aujourd'hui d'encourager les troupes, c'est bel et bien Lionel Messi.
Caroline Vic, en Argentine, en France, il fait beau, il fait chaud sur tout le pays aujourd'hui. Voilà pour la météo, vigilance canicule même décrétée sur le département du Rhône, avec cet après-midi plus de 30 degrés un peu partout donc dans le pays, 33 en région parisienne. Et c'est vous, Caroline Brouet, à Toulouse, pour les matins du samedi, qui allez nous donner la météo dans la ville rose.
32, vous nous avez dit tout à l'heure.
Voilà,
cet après-midi. Pour l'instant, nous sommes dans la salle du Sénéchal, donc nous sommes dans un bel amphithéâtre, mais nous sommes enfermés dans cette salle, donc nous ne voyons pas dehors, mais je crois qu'il fait beau aujourd'hui, et donc très chaud. Merci, super beau, me dit-on même. Merci Camille Magnard, on vous retrouve à 9h pour le prochain journal, dans la prochaine heure, à 8h52.